21h à Nouakchott et à Bamako, minuit à Asmara. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Suite de nos émissions spéciales 2015, quel rôle peut jouer la Mauritanie dans la lutte contre l'insécurité dans le Sahel ?
La Mauritanie, comme chaque pays d'ailleurs, on ne peut pas agir seul. Et c'est très dangereux de penser qu'on peut agir seul contre le terrorisme.
Nous entendrons Amédou Ould Abdallah, directeur du centre 4S. Nous évoquerons ensuite l'Érythrée, quelles perspectives pour un régime qui semble immuable.
Les ministres font de la figuration, hein. Ce sont des gens qui exécutent les ordres qui sont donnés par le bureau du président.
Léonard Vincent, journaliste et écrivain. Enfin, le cinéaste tchadien Serge Coelho sera dans notre page culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Les États-Unis s'opposent avec force à la demande d'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale, la CPI, une mesure qui serait contre-productive, a fustigé aujourd'hui le département d'État américain. La diplomatie des États-Unis a ajouté dans un communiqué que cela ne ferait rien pour les aspirations du peuple palestinien à avoir un État souverain et indépendant. Pour rappel, le président Mahmoud Abbas a signé aujourd'hui la demande d'adhésion palestinienne à la Cour pénale internationale au lendemain du rejet d'une résolution palestinienne à l'ONU. Outre cette demande qui permettrait de poursuivre des responsables israéliens devant la justice internationale, M. Abbas a signé 20 autres conventions internationales portant notamment sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. En Tunisie, Béji Caïd Essebsi a prêté serment en tant que nouveau président. Il est le premier chef d'État tunisien démocratiquement élu depuis l'indépendance en 1956. Le nouveau président de la Tunisie, âgé de 88 ans, a remporté l'élection présidentielle au deuxième tour en battant dans un duel historique Monsef Marzouki, le président intérimaire depuis l'éviction de Zine al-Abidine Ben Ali, c'était en 2011. À Bukavu, dans le sud Kivu, en RDC, la Direction générale des impôts a saisi les comptes de l'hôpital du docteur Denis Mukwege, reconnu au niveau mondial pour son aide aux victimes de viol. Plus de 300 employés n'ayant pas reçu leur salaire de décembre à cause de la décision ont fait un sit-in devant la DGI pour protester. Selon l'avocat de l'hôpital Panzi, il est reproché à l'établissement de ne pas payer l'impôt.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et bonne année à tous. Pour certains, le compte à rebours se poursuit pour le nouvel an, alors que pour d'autres, comme en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est déjà 2015. Comment se passent les préparatifs, mais aussi les célébrations qui ont lieu un peu partout en Afrique et d'Isango.
Les coups d'envoi est parti de la Nouvelle-Zélande où une horloge géante sur l'emblématique tour d'Auckland a décompté les minutes mercredi soir, heure locale, jusqu'à la nouvelle année. Deux feux d'artifice ont suivi, lancés depuis la tour illuminée. Au Sydney, plus de 1 500 000 personnes se sont massées par un temps chaud d'été sur les rives du port de la ville pour assister à un spectacle de feux d'artifice consistant en une danse harmonique des flammes aux couleurs d'or et d'argent sur des palmiers. Rio de Janeiro s'attend à plus d'un million de fêtards sur sa plage des Copacabana pour des concerts de rock sur trois étapes. La célébration du Nouvel An de 2015 sera la plus importante aux États-Unis. New York s'apprête pour sa part à lancer sa boucle de cristal à minuit. Plusieurs centaines de milliers de fêtards sont aussi attendus pour l'événement annuel. Mais en Indonésie, par contre, Jakarta et d'autres villes ont annulé leur célébration du Nouvel An à la suite de l'accident de l'avion d'Erazi dans les profondeurs de la mer de Java.
Et les deux premiers corps repêchés du site du crash d'Erazian sont arrivés dans la ville de Surabaya en Indonésie où ils seront examinés par des médecins légistes. Les services d'urgence ont repêché 7 corps depuis la découverte de l'épave de l'avion hier. Le vol 8501 d'Erazia avait disparu dimanche, vous vous en souvenez, en route vers Singapour avec 162 personnes à bord. Vous écoutez VOA Afrique, place maintenant à la suite de Sahel+, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous continuons notre semaine consacrée aux perspectives de la région sahélienne pour l'année 2015. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser à la Mauritanie et à sa nouvelle place dans l'échiquier de la lutte contre le terrorisme. La Mauritanie, incluse dans le dispositif français Barkhane, est désormais partie prenante du dispositif antiterroriste au Sahel. Quelles sont les raisons de ce changement ? Hamedou Ould Abdallah est diplomate mauritanien et directeur du centre 4S.
Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est une question de transparence. On ne peut pas être dans quelque chose aujourd'hui, dans l'ère de masse communication, et dire qu'on n'est pas là-dedans. Je pense que c'était pour des questions tactiques que les Mauritaniens ne voulaient pas apparaître vis-à-vis des groupes radicaux comme étant la force principale utilisée dans le Sahel. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre et les Mauritaniens donc, surtout comme ils président un certain nombre d'organisations régionales, comme le groupe de 5 qui a été établi à Nouakchott en février dernier, apparaissent de plus en plus sur la scène. Et c'est bon et c'est mauvais.
Est-ce que vous trouvez que le groupe des 5 est particulièrement actif ?
Bon, c'est prématuré de porter un jugement là-dessus parce que établi le 16 février ou en tout cas en février 2014, donc ils sont dans une période de rodage. Mais le problème qui se pose pour eux comme pour d'autres organisations, c'est la multiplicité des institutions. Il y a plusieurs groupes et donc à un moment donné, je suis sûr qu'ils réaliseront, les États membres réaliseront l'importance de consolider leurs efforts et leurs institutions pour des économies d'argent, des économies de temps et pour avoir un impact plus décisif sur les sujets qui les préoccupent, qui sont, je pense, la lutte contre les trafics divers, mais aussi contre le terrorisme qui évolue. Ce n'est plus le terrorisme d'Acmi seulement, il y a une grande évolution dans le terrorisme.
Alors quel rôle justement peut jouer la Mauritanie dans la lutte contre l'insécurité au Sahel ?
La Mauritanie, comme chaque pays d'ailleurs, on ne peut pas agir seul. Et c'est très dangereux de penser qu'on peut agir seul contre le terrorisme, que ce soit l'Algérie ou la Tunisie, le Niger, le Tchad ou autre. C'est toujours difficile d'être à l'avant-garde. Mais la Mauritanie a une certaine proximité, à un moment donné en tout cas, proximité physique, géographique, avec les gens qui mènent les plus d'action. Je veux dire, c'est des Sahéliens comme nous, c'est comme nous Mauritaniens, c'est des gens qui se déplacent facilement sans crainte dans le désert, qui se déplacent facilement sans provision nécessairement. Donc cette proximité donne un certain avantage psychologique aux forces de sécurité mauritaniennes. Ceci étant, bon, les choses évoluent. Les activistes, les radicaux ont un entraînement quotidien et ils sont déterminés. Et donc, à mon avis, il n'y a que la coordination des actions, la mutualisation des efforts et des ressources qui peut aider, y compris avec les partenaires étrangers, comme l'Europe et les États-Unis.
Comment vous expliquez le peu d'attentats sur le territoire mauritanien ?
Alors, d'abord, c'est bon de s'en féliciter. Le fait qu'il n'y ait pas d'attentat, c'est toujours bon. Le problème avec le terrorisme, c'est qu'il va par vagues. Il y a des périodes où il agit sur tel ou tel endroit, des périodes prioritaires et des périodes de calme. Mais tant qu'il y a la menace, je crois qu'il faut toujours rester en alerte. Se satisfaire d'une pause qui est décidée par d'autres groupes, que ce soit parce qu'ils réaménagent leur stratégie, que ce soit à cause de l'impact des forces de sécurité mauritaniennes. À mon avis, tant que la menace existe dans la région, le mieux c'est de rester vigilant.
Hamedou Ould Abdallah est diplomate mauritanien et directeur du centre 4S. Suite de nos perspectives 2015, et nous sommes en Érythrée à présent. Ce pays est l'un des plus fermés au monde, où les seuls échos qui parviennent sont ceux des Érythréens qui ont réussi à fuir le pays. Ce régime de fer semble pourtant avoir été sensible aux sanctions onusiennes, sanctions qui pourraient être levées en 2015. L'éclairage de Léonard Vincent, journaliste et écrivain.
Immédiates sont très incertaines, étant donné les difficultés d'obtenir des informations fiables sur ce qui se passe dans le pays, alors pas simplement pour la population, mais aussi au sein du gouvernement. C'est un gouvernement extrêmement opaque, dirigé par un homme et son clan. Les ministres font de la figuration, hein. Ce sont des gens qui exécutent les ordres qui sont donnés par le bureau du président. Donc dans ces conditions-là, c'est assez difficile de faire des prédictions ou de pouvoir anticiper les réactions d'un régime qui, par ailleurs, utilise son imprévisibilité, utilise la surprise et un peu se fait gouverner au gré des caprices d'un homme, Isaias Afwerki, qui est à la tête d'un mouvement de libération et qui était à la tête du mouvement de libération pendant la guerre contre l'Éthiopie et qui est toujours à la tête de l'État. Donc, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'Érythrée a été considérablement isolée par les sanctions internationales décidées par le Conseil de sécurité en 2009, étant donné son implication et son soutien au Shabab somalien. Ils ont levé le pied manifestement sur le soutien à ce mouvement, et aujourd'hui, ils considèrent que ces sanctions qui étouffent son économie, qui isolent politiquement sa diplomatie, ne sont plus justifiées.
Et est-ce que vous, dans les perspectives 2015, vous êtes un petit peu optimiste alors sur ces changements de situation? C'est pas ce que j'avais noté, vous tenez un blog où vos derniers textes étaient plutôt pessimistes.
Il y a de quoi être pessimiste avec l'Érythrée aujourd'hui, parce qu'on est face à un régime qui essaye de sortir de son isolement et qui fait une opération de charme depuis quelques années pour faire en sorte que les sanctions qui ont été prononcées contre eux en 2009 pour son soutien au Shabab soient levées. Ces sanctions asphyxient son économie, isolent sa diplomatie. Donc depuis quelques années, ils font montre de bonne volonté auprès de la communauté internationale, et l'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine semblent prendre à cet appât et font des démarches positives et progressives, pense-t-il, auprès de l'Érythrée, en essayant de l'amener sur la voie de la réforme. Or, c'est un régime extrêmement dur, c'est un régime qui, depuis des années, utilise le mensonge et ne tient pas ses promesses qu'ils font auprès de la communauté internationale. Donc, on peut s'attendre à peut-être des mesures symboliques pour amadouer la communauté internationale et qui vont permettre à l'Érythrée de rejoindre le concert des nations, mais je ne pense pas que pour la population érythréenne, ça change quoi que ce soit.
Les témoignages que vous avez, vous, eu sur place, sont absolument terribles.
Oui, les témoignages des réfugiés, enfin de ceux qu'on appelle des réfugiés ou les migrants, et qui sont en réalité des fugitifs, des évadés pour la plupart, font état d'un des régimes les plus durs et les plus cruels envers sa population du monde, en tout cas de l'Afrique. Les conditions de vie des Érythréens aujourd'hui, dans un pays très pauvre, mais qui par ailleurs est avec une économie vraiment exsangue, sont vraiment très éprouvantes. À partir de 17 ans, on est enrôlé dans l'armée, dont on vit donc dans des conditions militaires, face à une armée où les exactions, les brutalités, les incarcérations arbitraires, voire les violences sexuelles sont fréquentes. Donc c'est évidemment ça que les Érythréens fuient aujourd'hui. Si aujourd'hui la population érythréenne est si importante sur les routes d'Afrique, et si les réfugiés érythréens sont si importants au point d'être à peu près équivalents aux réfugiés syriens en Europe, c'est pas pour rien, c'est une façon pour eux de protester contre leur propre gouvernement, envers lequel ils ont entretenu beaucoup d'espoir, puisque c'était vraiment l'indépendance érythréenne en 1993 a suscité un immense espoir dans la population. Donc c'est une façon pour eux de protester, c'est une façon de faire la révolution avec leurs pieds. Il ne suffit pas simplement de relire les rapports d'ONG ou les reportages qui sont faits sur la base des témoignages des réfugiés. Il faut simplement regarder les chiffres pour voir que quelque chose ne va vraiment pas dans ce pays.
Léonard Vincent, journaliste et écrivain, il a publié le livre « Les Érythréens » en 2012 aux éditions Rivage. Je ne peux que recommander son excellent blog leserythreens.com.
Salam alaykoum. اسمي بارو ادم بارو
ادم بارو ادم بارو.
Page culture pour finir l'émission. Vous venez d'écouter un extrait du film Tartina City du réalisateur mauritanien Serge Coelho. Tartina City est l'histoire d'Adoum, un jeune reporter qui veut diffuser à l'étranger un reportage sur la situation de son pays. Une mystérieuse lettre sera trouvée sur lui lors de la fouille à l'aéroport. Issa Serge Coelho est connu dans le secteur du cinéma africain pour de nombreux longs et courts-métrages, ainsi que de films documentaires réalisés en Afrique et en France, dont le plus connu, le court-métrage Bouzy, a remporté le César de la 22e édition du Festival de courts-métrages de France en 1997. Selon lui, le cinéma tchadien connaît encore beaucoup de difficultés. Issa Serge Coelho.
Nous avons, à travers nos turbulences politiques, mis entre parenthèses toute une génération qui
n'a plus eu accès aux salles de cinéma. Et à travers ça, ils ont développé un autre type de consommation cinématographique qui est lié donc au VCD, au DVD, à l'Internet, etc. Et malgré qu'il y ait souvent des ciné-clubs, ce qu'on appelle les ciné, c'est les petits vidéoclubs de quartier, ils n'ont pas eu accès à la vraie salle de cinéma. Traction ou bien des sorties des gens de la ville qui n'ont plus accès. Et donc, tout ça fait qu'on surfe sur une belle vague là au niveau de la culture. Maintenant, il nous faut un fonds pour alimenter et créer des projets audiovisuels ou des films de cinéma. Et on est en train de voir dans quelle mesure la rédevance audiovisuelle qui peut servir à alimenter un fonds pour aider le cinéma. Il nous faut plus de production. Par exemple, au Tchad, nous, on fait un film en moyenne maintenant, moi, pour ma propre personne, c'est tous les 5-7 ans, etc. Donc, à part ça, on n'a pas d'autres cinéastes. On essaie de les former pour arriver aussi à plus de production. Bon, on n'est pas assez nombreux. Et contrairement à des pays comme le Burkina ou la Côte d'Ivoire, eux, ils sont plus tournés vers la télévision. Ils font des films de télévision, des séries, des choses comme ça. Il y a un fonds panafricain pour aider le cinéma au niveau de l'Union africaine. Et que les autorités prennent conscience que le cinéma, c'est pas un produit culturel comme les autres. Et donc, il a besoin d'un appui et puis d'un cadre pour qu'il puisse éclore et se développer et aller concurrencer les autres cinémas du monde qui sont très très actifs.
Le réalisateur mauritanien Serge Issa Coelho. Celle plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Issia Kaba. À la technique, Nick Ivanov. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Saul Makossa, bien sûr, Manu Dibango et Youssoundour. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.